Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour à toutes et à tous. Voilà, ben nous allons rester cette semaine encore avec Francis Annet et son pyrénéisme, pour pas dire l'alpinisme. Voilà. Alors, Francis Annet, ben, il est photographe, il habite Sarlat, il est éditeur, il a à son actif quelques ouvrages sur Sarlat et le Périgord, dont on reparlera à l'occasion. Voilà, donc en 1992, il est l'auteur d'un livre, Pyrénées, qui obtiendra le premier prix au Festival mondial de l'image de montagne de Briançon l'année d'après. Et avec la participation, entre autres, pour ce livre, d'Aaron Taziev et Daniel Lomont. En 1998, il publie « Haute-Pyrénées, les sentiers du rêve ». Puis en 2022, « Nos Pyrénées », ouvrage de 480 pages, 1000 photos, qui retrace 50 ans d'alpinisme pyrénéen. Il est de format à l'italienne, favorable aux grandes photos. Nous connaissons avec François Durand, on se rencontre en entendant Sarlat, mais j'ignorais ce goût pour l'alpinisme et la photo de montagne. Donc j'ai ce gros ouvrage sous les yeux et voici ce qu'il nous dit dans ce que nous dit cet ouvrage dans une postface qui s'intitule « Envoûtante Pyrénées ». Laissez-vous griser par la splendeur sauvage de cette chaîne aux mille visages. Embarquez-vous pour une traversée originale aux multiples méandres comme un voyage qui prendrait le temps d'une vie de montagnard. Des sites emblématiques, naturellement, et bien d'autres plus secrets vous sont dévoilés ici à travers le regard singulier de l'auteur. Alors d'un cap à l'autre, il vous montre ce qui pour lui est le plus digne d'intérêt en privilégiant l'esthétisme toujours. C'est ce qui lui donne sens à sa passion de photographe. Laissez-vous séduire par les innombrables caprices de la nature, abonnez-vous à l'émotion avec les Pyrénées. Il suffit d'ouvrir les yeux et son cœur pour être exaucé. La beauté s'y exprime à tout instant. Voilà, donc ça c'était la postface, et il y a des contributeurs. Alors, parmi eux, Daniel Lomond, qu'on a déjà cité, et il y a également Michel Testu, il y a Laurence Muguet, un joli nom, et puis il y a aussi Jean Denada. Voilà, j'allais l'oublier, Paul Bonhomme, Humberto Flemati, etc. Alors, je vais ouvrir maintenant ce livre. Voilà, ça va y être très bientôt, c'est pas très facile, voilà, c'est un peu encombrant, voilà. Alors donc on va repartir donc avec Francis Annet, donc dans les Pyrénées. Et c'est la Transpyrénéenne avec des chiens de traîneau. On voit ça de temps en temps des fois à la télévision. Alors, il y a des photos, il y a le mont du Carlit, ça vous dira peut-être quelque chose, la montée du col de Cerdère et le col de Cerdère. Voilà. Alors, en hiver 2018, 8 chiens de traîneau et Romain da Fonseca, leurs muchères ont parcouru l'intégralité de la chaîne pyrénéenne. Tout le mois de février aura été nécessaire pour rallier Hendaye à Banyuls. J'ai eu le privilège d'être invité pour participer à cette odyssée en tant que photographe pour cette mission, l'édition du livre « 8 chiens face aux Pyrénées ». Alors, bien sûr, c'est Francis Annet qui parle. Des moments rares vécus hors du temps, parfois loin de tout, de l'exceptionnel au quotidien pour me forger des souvenirs ineffables. Moi qui ne suis pas coutumier de la montagne en hiver, de belles rencontres, de l'intensité et des difficultés pour apprécier au mieux ce rapport direct à la nature. Personnellement, ce fut l'occasion de découvrir l'univers fascinant des chiens de traîneau, de comprendre leur goût prononcé pour l'effort et l'aventure toujours disposée à s'élancer et à obéir à leur maître. Alors, voilà donc pour les chiens de traîneau, on va continuer de feuilleter ce gros livre. Voilà, alors, voilà ce qu'il nous dit pour être sûr avec des skis. Les peaux de phoque sont fixées aux skis. Avec Jacques, nous voici repartis pour plusieurs heures de montée. Le temps est magnifique, avec juste quelques brumes pour embellir le paysage s'il en était besoin. Nulle trace humaine dans la neige, nous ouvrons la voie blanche dans un silence assourdissant. Après des efforts conséquents, nous apercevons enfin notre but du jour, le refuge de l'arrivée. Il sera notre toit pour une nuit qui s'annonce des plus fraîches. Une nuit que nous passerons seuls au monde, une pluie comme un cadeau. Nous sommes le 24 décembre 1975, pour nous, le Père Noël est déjà passé. Alors, puis il ajoute, je me faufile dans le temps qui passe, histoire d'oublier le temps perdu à le regarder passer. Alors, il y a là, évidemment des photos, il y a le Larribey, il y a le Vignemale, le Pic d'Ossau, le Mont Perdu et le Talion qui vous diront peut-être quelque chose si vous êtes adepte de la montagne. Alors, on va poursuivre un peu ce texte donc de Francis Lanet. J'aime tout particulièrement la pointe Rangougne d'un accès rapide depuis le lac d'Aubert. Elle impressionne la vue panoramique depuis son sommet, récompense de ses efforts. Dans sa face est, le couloir caractéristique est direct vers le sommet et mon objectif du jour. Quelques pas de 4, alors ça, pas de 4, je ne connais pas exactement ce que c'est, seront la seule difficulté de cette voie. Arrivé au pied de la paroi, un homme un peu âgé est là, qui visiblement cherche son chemin. Il est venu faire la voie normale qui zigzague dans la face, mais il n'en trouve pas le départ. Je le rassure, je le mets sur la piste, le guide un moment, puis fait demi-tour pour attaquer mon couloir plus haut, et je le retrouve, l'accompagne à nouveau, et revient sur mes pas, afin de poursuivre mon ascension. Ainsi de suite jusqu'au sommet. Ce jour-là, j'aurais gravi deux voies en même temps. Nous sommes redescendus ensemble au refuge d'Oredon, où nous attendent deux bières bien fraîches. Donc c'était certainement en plein été. Et il y a une vue magnifique du lac d'Aubert. Alors on va continuer un petit peu. On va continuer un petit peu. Comme je disais, alors le col Toura va m'accueillir pour une nuit en solitaire sous le regard bienveillant du Pic Long. Le soir se pose lentement sur la montagne à Langui. Je suis apaisé par tant de douceur. Allongé à même le sol, à m'étouffler dans mon duvet, je guette les premières étoiles. Soudain, quelques sonnailles me sortent de ma torpeur. Une vingtaine de brebis s'approchent tout autour de moi et finissent par se coucher, elles aussi, tout à côté. Au petit matin, elles sont encore là. Nous venons de partager une belle voie lactée, elle et moi. Alors, être tout seul dans un duvet au sommet d'une montagne, il vaut mieux que ce soit des brebis que d'autres farfadés. Voilà, donc il y a une citation de Daniel Lomont, on parlait de lui il n'y a pas très longtemps. C'est en haut que se trouve l'ivresse, partout on l'attrape en montant. Voilà, alors bien sûr, donc il y a le Mont Perdu, ce fameux Mont Perdu, il y a le cylindre de Marboré et la serre Mouraine. Comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'ils vous diront quelque chose. Voilà, alors donc je vais continuer un petit peu. C'est avec Pierre, l'un de mes frères, et Camille, notre père, que nous jouons les équilibristes sur la crête occidentale du cirque de Troumouze. Il fait beau, un peu lourd, la vue sur le Mont Perdu est splendide et nous avançons tranquillement, profitant de l'ambiance aérienne du lieu. Quelques nuages se forment rapidement, sans nous inquiéter pour autant. Rencontre un berger espagnol qui nous parle fort avec de grands gestes, mais je ne comprends pas son dialecte. Il disparaît alors aussi vite qu'il était venu, soudain à l'approche du sommet de Peine Blanque, le ciel se charge très très vite, des premiers grondements se font entendre, et quelques petites minutes, voici surpris par un orage impressionnant. Le tonnerre est attourdissant, les éclairs zèbrent le ciel, de toutes parts la pluie distille des grosses gouttes, l'atmosphère devient irrespirable, je ressens la charge électrique de l'air, j'entends les abeilles, c'est spectaculaire. Mon frère se tourne vers moi en riant, j'ai mes cheveux longs dressés sur la tête. Très vite, nous abandonnons la crête et nous descendons un peu dans la pente pour nous éloigner de l'arête. Aussi, assis sur nos sacs, nous attendrons que la pluie devenue plus forte cesse. Après un bon quart d'heure, en un clin d'œil, le ciel se dégage bleu, retrouve toute sa place. Encore un peu engourdi, nous reprenons le fil de notre course qui se terminera sans encombre. Voilà. Alors, c'est pas toujours, comme je disais, c'est pas toujours facile et il y a toujours quelques problèmes. Alors, il y a de très belles photos, comme je disais, l'image essentielle nous restitue intacte l'émotion du premier regard. Et donc c'est le cylindre de Marboré. Alors il y a aussi la nature et après tout notre seul et véritable guide de la vie. Voilà, ou dans la vie, comme vous voulez. Voilà. Donc pour continuer un peu. Il y a bien sûr d'autres textes que je vais vous donner. En cette fin d'après-midi, je regagne le refuge des Oulettes de Gobe. Pour me prélasser un peu en terrasse, avant de poursuivre mon chemin, non loin de moi, Étienne Florence qui en est alors le gardien est en grande discussion avec un homme arborant des lunettes rondes. Toute évidence, c'est un pro de la montagne. Entre propos techniques et éclats de rire, je finis par comprendre qu'il s'agit de Robert Olivier. Je ne le connaissais pas que par ses célèbres guides d'escalade. Je regarde précieusement une édition de 1963. Durant des décennies, je les ai utilisés pour sécuriser toutes mes aventures. Je mesure aujourd'hui la chance que j'ai eue de côtoyer un instant ces deux êtres exceptionnels, tellement emblématiques du pyrénéisme. Voilà, alors, bien sûr, puis il va nous citer, basculer de l'autre côté ou rester sur ce versant, la lumière a déjà choisi. Et il y a Vignemal, alors Vignemal, bon, c'est connu, je ne sais pas si beaucoup n'ont fait d'escalade, mais c'est quand même un des pics pyrénéens les plus cotés. Alors, il y a bien sûr il y a le pic d'Ariel, il y a l'Ibonne d'Ariel Alto, l'Ariel Bajot et l'Ibonne Chelu, depuis l'abri Michaud. Alors là, je pense que certains, bon, comme je disais à l'instant, connaissent peut-être. Alors, mais c'est pas toujours de, comment je pourrais dire, il y a quand même des ennuis aller dans la montagne. Voilà ce qu'il nous dit. Avec Françoise, ma cousine, nous venons de gravir le palace et regagnons le bas de la cheminée, le dormeur. Arrivé sur le névé, je prends un peu d'avance, soudain un cri retentit. Françoise vient de perdre l'équilibre et glisse dans la pente. Elle prend de la vitesse, par chance, je suis en dessous, juste à son aplomb. Je me campe sur mes jambes et attends le choc que j'ai sous-estimé. Elle m'emporte avec elle et nous glissons ensemble vers de gros blocs de granit, pas très engageants. Tant bien que mal, je parviens à me retourner, me voici assis face à la pente avec ma cousine dans le dos. Afin de ralentir notre descente, je lance mon bras en arrière et plante mon piolet dans la neige. Sous le choc, je ressens une douleur aiguë dans l'épaule. Nous arrivons encore trop vite sur un gros bloc, les pieds devant. Il vacille sous notre poids, puis reprend sa place. Une fois debout, Françoise va bien, moi j'ai l'épaule démise avec l'humérus qui remonte sous l'aisselle. La douleur est intense, je m'affole un peu en songeant aux quelques pas d'escalade qui m'attendent pour regagner le port du Lavedan. Maintenant au refuge, et je ne vois pas d'autre solution que tenter de réparer moi-même les dégâts, ne souhaitant pas repartir en hélicoptère. Après un temps de réflexion, je bloque le bout de mes doigts sur la pointe de ma chaussure et doucement je tire le buste vers le haut. J'arrondis au maximum mon dos et tire plus fort encore, plus fort et soudain, clac ! Le bruit de l'os reprenant sa place me remplit de joie. La douleur est devenue supportable, le port du Lavedan escaladé et le Larribé regagné. Le lendemain matin, mon épaule est très raide, endolorie. Quelques jours d'immobilisation sera alors nécessaire pour l'oublier. Alors, c'est pas quand même, comme je disais, c'est pas toujours vraiment de tout repos. Alors, mais il y a, alors pour les photos, il y a quelqu'un qui s'est héliporté, il y a des planeurs, des rapaces, des deltaplanes, voilà. Et puis, donc, il y a aussi le glacier de Las Neus. Et donc, voici donc ce qu'il en dit du 6 septembre 2015. De vraie désolation. Plus de roches que de glace vive, même dans sa partie supérieure, la plus pentue, le glacier de Las Neus, à l'instar des autres glaciers de la chaîne pyrénéenne, prend chaque année une grosse partie de son volume et de sa longueur. En 1850, il mesurait 1800 mètres, était alors le troisième plus long de la chaîne. En 2020, il ne mesurait plus que 300 mètres. Les spécialistes prédisent sa disparition totale à courte échéance. Et malheureusement, aucune raison pour que ce phénomène s'inverse ou tout simplement cesse. Il nous reste les souvenirs des descentes du Balaïtous en début d'après-midi, courant comme des bienheureux sur la glace ramollie en direction du refuge, le dormeur. La Sneus semble interminable et immortelle, une époque désormais révolue. Bon, et puis, il y a quelques casemates, il y a le lac du Barba, et puis, donc dans ce lac, il y a quand même des poissons. Alors voilà, un vrai délit est celle que d'aller droit au but, rencontrer au lac du Barba cette triste rêve de nager plus vite que l'éclair. Ce mimétisme sera-t-il suffisant? En attendant, on s'entraîne et il y a une vue d'une très belle truite saumonée et qui a des points jaunes donc sur le corps. Puis bien sûr, il y a les fleurs. Alors, il y a l'astère, il y a le silence à couler, il y a le chardon, ça c'est plus connu, et bien sûr de magnifiques delvesses. Voilà, et donc, voilà ce qu'il nous dit, trop de fleurs écloses, singulières et fières, sans aucun regard passé inaperçu. Voilà, ben, je crois que mon temps est terminé, et je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, et donc, ben, à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.